évoquer ce mois de mai, ce souvenir, esquisser un paysage mental, imaginer un chant choral, une mosaïque de textes, une polyphonie d'écritures qui se croisent, se répondent sans le savoir, et même empruntent quelques pas de côté, ici et ailleurs, tout autour. Tel fut mon carnet de route amical, la saisie des surprises, un tissage inattendu.
Mai 68, quelques pas tout autour, par Hélène Bleskin. Quatrième émission.
Venez, père et mère, de partout dans le pays, et ne critiquez pas ce que vous ne pouvez pas comprendre. Vos fils et vos filles sont au-delà de vos ordres. Votre vieille route est en train de vieillir rapidement. Ne restez pas sur la nouvelle si vous ne pouvez pas nous aider, car les temps sont en train de changer.
Bob Dylan.
Mai 68 fut un devenir faisant irruption dans l'histoire, et c'est pour ça que l'histoire l'a si mal compris, et la société historique si mal assimilée.
Gilles Deleuze.
À Sancier, parmi ceux qui écrivaient sur les murs, il y avait quelqu'un qui riait toujours. C'était un grand type mince, très jeune, au regard très vif, un visage et une silhouette de moine maigre, juvénile et possédé. Il marchait assez fébrilement, comme sur le point de courir. C'était à se demander s'il était poursuivi ou s'il poursuivait. Mais qui ?
Un anonyme.
Il y avait une porte séculaire sur laquelle il était écrit « Jeunes gens, femmes, artistes, travailleurs captifs du travail, penseurs, fiancés de la parole, amants des libertés, vous ne passerez jamais. La Bastille tiendra, il n'y aura pas d'autre époque. » Cette porte a volé en éclats sous la poussée des forces d'affirmation qui s'amassaient depuis plusieurs années et qui ont trouvé ce beau mois-là leur date de conjonction.
Hélène Sixou.
Une nuit, dans un couloir momentanément vide, où il n'y avait que lui et moi, je le croisais. Il avait un marqueur dans la main, il traçait de grandes lettres et je pus lire aussitôt les premiers mots. Je n'ai plus. Et là, il s'est arrêté. Il s'est retourné, sa main tremblait un peu, mais il y avait dans toute sa personne quelque chose qui tremblait toujours imperceptiblement, à commencer par son rire. Il a regardé à la ronde, dans le couloir. Je savais que ma présence était extrêmement indiscrète et qu'il allait peut-être s'arrêter à cause de moi. Mais je n'ai pas bougé. J'ai fait, si cela peut se dire, comme si je n'étais pas là. Alors le type, je pense, a fait comme si je n'étais pas là, c'est-à-dire qu'il était clairement entendu, mais oublié, que nous étions bien là. Alors il s'est retourné et il a écrit le mot « peur ». La phrase était achevée, il avait écrit « Je n'ai plus peur ».
C'est à quelque chose de plus simple et de plus radical que nous devons d'abord nous référer. Un fait est plus important, un fait positif. Une expérience créatrice, c'est-à-dire poétique. Le poète a dégoupillé la parole, annoncé un papillon de la Sorbonne. C'est un fait dont nous sommes témoins pour l'avoir vu et y avoir participé. Une foule devenue poétique. Une parole a explosé dans les relations qui l'ont permise ou qu'elle s'est donnée, avec la joie, ou le sérieux, de compartimentations brisées et de camaraderies imprévisibles.
Michel de Certeau.
Nous qui étions de ce printemps, nous entendions gronder la révolte et nous murmurions. Déjà, Jacques Derrida avait publié les textes du futur. Déjà, la différence et la déconstruction avaient été prononcées, annoncées. Et en ranimant Artaud avec la parole soufflée, on aurait dit que c'était le héros oublié et rappelé de 68 qui arpentait déjà le pavé parisien. En 66, en 67, déjà, Ariane Mnouchkine jouait la cuisine au cirque Montmartre en 67. Le théâtre, l'éternel et le futur revivaient et répondaient à Villars. Déjà et encore, le tourment de l'ouverture populaire se jouait.
Hélène Sixou.
on s'est mis à discuter enfin de choses essentielles, de la société, du bonheur, du savoir, de l'art, de la politique. Une palabre permanente se répandait comme le feu, immense thérapeutique nourrie de ce qu'elle délivrait, contagieuse. Elle ouvrait à chacun ces débats qui surmontaient à la fois la barrière des spécialités et celle des milieux sociaux, et qui changeaient les spectateurs en acteurs, le face-à-face en dialogue, l'information ou l'apprentissage de connaissances, en discussion passionnée sur des options engageant l'existence. Cette expérience a été. Elle est imprenable.
Michel de Certeau.
Comme il m'est difficile de parler. C'est une parole si neuve que je désire que mes doigts se tordent et se serrent. Ils sont drôles, mes doigts. On dirait qu'ils pétrissent la glaise de mon désir pour en faire de petits bonshommes de mots tout neufs.
Annie Leclerc.
L'expérience, c'était la prise de parole. Ce qui a été dit, c'était une contestation qui, en récusant le système entier, ne pouvait être que trahie par toute organisation existante, par toute procédure politique ou par toute institution renouvelée.
La bande de copains que nous étions s'était constituée en groupe information santé, GIS, afin d'élargir le cercle. La plateforme de réflexion stipulait que la médecine était certes une thérapeutique, mais également une émancipation de la personne soignée. Informer le patient pour en faire un acteur principal de sa guérison.
René Friedman.
Inventer une parole de femme. Mais pas de femme comme il est dit dans la parole de l'homme. Toute femme qui veut tenir un discours qui lui soit propre ne peut se dérober à cette urgence extraordinaire. Inventer la femme. C'est une folie, j'en conviens, mais c'est la seule raison qui me reste.
Écrire sur, cela est de toute manière sans convenance, mais écrire sur l'événement qui est précisément destiné, entre autres, à ne plus permettre qu'on n'écrive jamais sur, épitaphe, commentaire, analyse, panégyrique, condamnation, c'est par avance le fossé et l'avoir toujours déjà manqué. Nous n'écrirons donc jamais sur ce qui eut lieu, n'eut pas lieu en mai, non par respect, ni même par souci de ne pas restreindre l'événement en le circonscrivant. Nous admettons que ce refus est l'un des points où l'écriture et la décision de rupture se rejoignent, l'une et l'autre toujours imminente et toujours imprévisible.
Maurice Blanchot.
De Flins en route pour l'Italie, le congrès de l'OTA continua avec nos camarades ouvriers, les rendez-vous de la Fiat. Les grands cars en drapeau et le Sud qui monte sur son cheval de bataille. On chante à l'OTA continua pour entrer dans Bologne, la capitale des communistes, et remplir les gradins, et parler jour et nuit, comité de lutte, cadre ouvrier, ligne de masse et masse de ligne, trouver le bon ciment entre intellectuels et ouvriers, un téléphone qui marche dans les deux sens, la mesure de la balance, la fusion parce que la santé, la critique parce qu'avancer.
Hélène Bleskin.
Chemise blanche, jupe bleue. Avec sa tenue d'école sans passer chez elle l'après-midi, elle arrivait dans la salle et venait dans le coin où j'imprimais les tracts. Elle aimait la machine. Elle avait appris à s'en servir et me remplaçait quelques heures. Avec une pointe, elle dessinait sur la matrice les lettres les plus grandes, celles du titre, les mots forts. Elle ajoutait le dessin d'un point, d'une étoile. En ce temps-là, le tract était notre journal, il relatait le fait du jour et notre avis sur l'action à mener.
Eri De Luca.
Un jour, nous partons pour Reggio Calabria. Une émeute s'y est déclenchée que nous voudrions comprendre et peut-être écrire. Par où nous passons, on nous accueille comme des amis de toujours. À Milan, nous héritons de la demeure bourgeoise des parents d'un activiste de l'OTA Continua, au bas de laquelle une manifestation nocturne nous renvoie les 11 coups d'un mot d'ordre qui prétend que ce n'est qu'un début. À Rome, vers 4 heures du matin, nous déplions nos sacs de couchage dans la salle d'attente d'un médecin devenu copain.
Marc Hatzfeld. «
Notre génération était la première d'Europe qui, à 18 ans, n'était pas prise par la peau du cou et envoyée à la guerre contre une autre jeunesse déclarée ennemie. C'était la première qui s'affranchissait des conséquences catastrophiques du mot « patrie ». C'est ainsi que nous étions patriotes du monde et que nous nous mêlions de ces guerres. Sur une grande partie de ces tracts était écrit le nom d'un lointain pays de l'Asie, Vietnam. La jeune fille à la jupe bleue le traçait en lettres d'imprimerie pointillées, qu'on aurait dites cousues sur le papier.
À Naples, la conciergerie couverte de lierre d'un palais nous cache encore pour une nuit. Soudain, nous roulons sur une autostrade suspendue au-dessus de la baie, un ruban de béton déplié dans la lumière du Mezzogiorno, d'où la vue s'étend sur une côte ciselée contre la mer. De nouveau, nous volons comme des albatros. Mais à Reggio, toutes les chambres d'hôtel sont prises par des journalistes venus couvrir l'émeute. Nous déambulons épuisés sur la plage, jusqu'à ce qu'un pêcheur nous propose de dormir dans sa cabane.
Entre nous, il y avait un peu d'entente. C'était un moment propice, la différence de revenus, d'instruction, d'âge comptait peu. Elle me parlait de l'école, elle aimait la chimie. Aujourd'hui, j'ai étudié l'ozone. Il se forme autour des éclairs, il est bleu, il pique le nez. Et puis brusquement, tu irais te battre, toi, là-bas ? Et moi, tout de suite même. Mais tu sais tirer ? Non. Et alors ? J'apprendrai, comme tu l'as fait avec la Roneo. Elle restait un moment pensive, puis revenait sur le sujet. Et la peur ? Je suis un révolutionnaire, disais-je. La peur, je dois la chasser. Moi, la peur me gagne, même dans les charges de la police. Je m'enfuis. Je pense à mes parents qui ne se doutent de rien. Je ne crois pas être une révolutionnaire.
C'est le vendredi 3 mai 1968, vers 6 heures de l'après-midi, en plein milieu du boulevard Saint-Germain, que je suis née. Le boulevard était noyé sous un brouillard âcre qui brûlait les yeux, le nez, la gorge. Des machines ressemblant à d'énormes arroseuses municipales projetaient de violentes gerbes d'eau sur des groupes de jeunes qui criaient, couraient, s'arrêtaient et repartaient en sens inverse, abandonnant dans leur course un escarpin, un cartable.
Juliette Kahn.
Le lendemain, c'est avec Hoc que je vais rencontrer dans la nuit les émeutiers de Reggio autour d'un brasero où l'on chante des chants tristes avec des voix de basse. Nous ne sommes pas en train de rêver. Nous ne rêvons certainement pas d'un monde meilleur. Nous sommes dans notre rêve. Nous ne bâtissons pas un monde nouveau. Nous sommes dans ce monde. Il n'y a qu'un monde et nous l'avons conquis par le rêve, le temps qu'il a bien voulu se laisser envahir.
When the sun beats down and burns the tar upon the roof, and your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my baby, that's where I.
Si tu n'es pas une révolutionnaire, qui es-tu ? Une fille qui aide la justice, qui est du côté des gens opprimés par les manques et les abus. Alors tu es une fille qui veut aider son prochain. Ma question sonnait faux dans un après-midi de révolutionnaire. Elle s'en aperçut, elle resta silencieuse, et je pensais l'avoir vexée. Elle se tourna pourtant vers moi, car nous étions côte à côte, et elle dit, à peine plus fort que le moteur de la Roneo, « Mais toi, tu ne veux pas être le prochain de quelqu'un pour une fois ?» Je détournai mon regard. Je crois que la confusion gagna mes mains.
J'ai reconnu de dos un garçon du cours d'histoire médiévale.
penché au-dessus d'une palissade de chantier, il ramassait un morceau d'asphalte. Je le tirais par la manche. Larmoyant, lunettes et cravate de travers, il m'a rapidement décrit les flics encerclant la Sorbonne, les centaines d'étudiants arrêtés. Puis il est parti en courant de profil, un bras tendu en avant, l'autre replié, son projectile collé à l'oreille, vers le mur d'uniforme noir qui avançait lentement sur le boulevard. Je l'ai suivi, gêné par la jupe serrée et les talons hauts que je portais. Dans le service où je travaillais, il était interdit aux femmes de venir en pantalon, sauf en plein hiver, s'ils se mettaient à geler très dur et à condition que le pantalon soit caché sous une jupe. Le lundi suivant, 6 mai, j'ai emporté un jean pour me changer avant de sortir du bureau.
Comme presque chaque soir, nous avons travaillé tard à la préparation du tract que nous distribuerions le lendemain matin sur le parvis de l'usine. À partir de quelques incidents plus ou moins avérés rapportés par nos sympathisants dans les ateliers, nous élaborions des textes rudimentaires, scandés de formules incantatoires composées en majuscules d'imprimerie. Quelquefois, les phrases clés de ces tracts étaient traduites en arabe et en portugais. Nous nous efforcions de rédiger ces tracts dans un style relativement châtié, à la fois parce que nous étions peut-être moins que d'autres enclins à la dénégation de nos origines, et parce qu'il nous était apparu que les ouvriers, pour la plupart, préféraient de beaucoup cette correction aux éructations supposées reproduire le parler du peuple.
Jean Rollin.
Le 7 mai, alors que nous traversons en courant le pont de la Concorde en direction des Champs-Élysées, la main de Gilles m'enseigne sa peur parce qu'elle tremble dans la mienne. Et elle m'enseigne son courage parce qu'on y va quand même. Dans la nuit du 10 au 11, rue Gay-Lussac, j'apprends à extraire les pavés de la chaussée, à me faire une cuirasse de papier journal pour amortir les coups, à édifier une solide et vaine barricade, pavés puis grilles, branches d'arbres et palissades de chantier, auxquelles s'ajoute, à mesure que la nuit avance, tout un bric-à-brac de vieilles choses cassées apportées par les habitants du quartier.
À l'automne, j'avais été requis par l'organisation pour aller à Paris prendre livraison de Suzanne, qui nous était envoyée en renfort. Dans les couloirs de la station de métro Sèvres-Babylone, où notre rendez-vous avait été fixé, le rire de Suzanne, un rire d'une gaieté, d'une force telle que je n'en ai jamais retrouvé depuis dans le rire d'aucune femme, faisait se retourner les gens. Il était dans l'ordre des choses que je tombe amoureux de Suzanne, et c'est ce qui advint. Elle-même me préféra Jean-Noël. Et c'est ainsi qu'à toutes les raisons, bonnes ou mauvaises, authentiques ou livresques, que j'avais déjà de détester le monde, non seulement la société, mais le monde, s'en ajouta une nouvelle, plus forte que toutes les autres, et assez commune à cet âge. Je découvris que Suzanne avait définitivement fait son choix, et qu'il ne m'était pas favorable, un soir que nous renéotions un tract, une fois de plus, dans cette pièce centrale de notre habitation collective, et lors duquel, sous un prétexte quelconque, Suzanne et Jean-Noël s'éclipsèrent au dehors et ne revinrent qu'au bout d'une heure.
Personne ne dirige les opérations. Ça s'organise tout seul dans un calme remarquable, comme si on avait depuis l'enfance appris à construire ces barricades qui font entrer le mouvement dans la longue suite des insurrections parisiennes et qui vont le lendemain faire basculer le pays en notre faveur. La nuit est douce, suspendu aux nouvelles que l'on écoute attroupées autour de ceux qui ont un transistor.
Elle fréquentait une institution privée. Elle emportait l'uniforme jusqu'aux souliers et aux chaussettes blanches qu'elle retirait cependant en arrivant dans la salle du quartier de San Lorenzo. Elle mettait des bas en nylon et des mocassins. Elle seule de son institution et en cachette s'était mise à prendre part au mouvement et aux raisons d'une jeunesse inapaisée et dépareillée, ennemie des pouvoirs constitués, secouée par les affaires du monde. En secret, elle apportait un peu de ses feuilles dans son école, à ses seuls risques, sans aucun espoir d'adhésion, et elle doutait d'être révolutionnaire. Le degré de rupture à l'intérieur de l'ordre social d'alors ne se mesurait pas des personnes prêtes à partir pour un front, mais à des citoyens comme elle, qui se mettaient à saboter des pouvoirs dans les endroits les plus étranges et les plus difficiles. Le degré de fièvre de cette Italie n'était pas donné par les surexcités, mais par le pouls des doux, des pacifiques qui collaboraient aux révoltes. Quand ce sont les pensionnaires qui vont à l'aventure, un pays est proche de l'incandescence.
Mai 68 fut une convergence. C'est comme si des milliers de petites rigoles avaient abouti au même point, formant un lac d'impatience qui ne pouvait que déborder. Le fil que je suivais correspond sans doute à tout ce que les révolutionnaires professionnels ont stigmatisé sous le nom de romantisme révolutionnaire. Mes lectures, mes révoltes contre l'injustice d'une société bloquée et moralisante dont l'hypocrisie suintait, mon attachement à des figures comme celle du Che qui venait de trouver la mort en Bolivie, rien de tout cela ne pouvait former quelque chose qui eût pu s'apparenter à la conscience de classe. Non. C'était plutôt comme un état, et il faut le dire, un état plutôt heureux, fait de vitesse et d'associations d'idées, d'exemples et d'échos.
Jean-Christophe Bailly.
La jupe bleue, la chemise blanche, les bas en nylon, les mocassins et les manières, elle était élégante par rapport au reste de nous autres. C'est ce qui me plaisait, qu'elle ne voulait pas mettre un second uniforme, celui des révoltés. Elle avait de la sympathie pour moi qui venais du Sud et qui avait l'air dépaysé des émigrants, eux qui n'auront plus jamais de pays. Je ne me permettais aucune familiarité, mais je regardais sa jupe. Sa belle couleur bleue apaisait mes yeux, trop rivés sur le blanc et noir des polycopiers sous la lumière du néon. Ce n'était pas le bleu des salopettes ouvrières qui sortaient de leurs usines à l'air libre pour une grève improvisée. Sa jupe était du bleu qui entoure le lamparot dans la pêche nocturne au calamar, au totano. C'était le bleu qui enveloppe la lumière et l'accompagne tandis qu'elle s'enfonce dans la mer.
Don't remember what to say. You don't remember what to do. You don't remember where to go. You don't remember what to choose.
C'était mai 68, quelques pas tout autour, par Hélène Bleskin, quatrième émission. Avec les voix de Claude Aufort, Sandy Boisard, Antonin Chalot, Guy Chapelier, Sophie Dole, Aymeric Le Serre, Johanna Nizar, Frédéric Pierrot, Nicolas Racca, Dominique Verrier et la voix d'Élodie Hubert. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrier. Remerciements à Antoine Vuillouz de la discothèque pour les recherches musicales. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Manon Houssin et Alice Seyed. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Réalisation, Juliette Eman. You thought you were flying. You opened your eyes and you found yourself falling back to yesterday's life. Vous pouvez retrouver toutes les références bibliographiques des textes sur notre site internet à la page du feuilleton.